Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous. Nous avons consacré les deux précédents numéros de cette émission à l'Orchestre et à l'Opéra National du Capitole, sans doute les deux fleurons les plus prestigieux de la proposition culturelle toulousaine. Mais si la musique classique fait rayonner Toulouse, ville des musiques de l'UNESCO, je le rappelle, bien au-delà des frontières de notre région et même de notre pays, d'autres disciplines sont également mises en valeur sur notre territoire, au sein de grands établissements ou à l'occasion d'événements spécifiques. Je pense aux arts plastiques, au cinéma, au théâtre et à la littérature. Il ne faut cependant pas oublier dans cette liste ce qu'on appelle la culture scientifique, technique et industrielle, plus simplement désignée par l'acronyme CSTI. On ne sait peut-être pas toujours assez, mais Toulouse est une place forte dans ce domaine. À cela, il y a des raisons historiques et économiques sur lesquelles nous allons revenir au cours de ce numéro dédié à la culture scientifique, technique et industrielle dans la métropole toulousaine. Pour savoir comment est organisée la CSTI dans la métropole toulousaine et connaître son histoire sur notre territoire, j'ai invité Francis Grasse, adjoint maire de Toulouse, délégué à la culture, président de la commission culture de Toulouse Métropole. Bonjour monsieur et bienvenue vous aussi dans ce studio que vous connaissez bien pour intervenir sur un sujet qui, je le sais, vous passionne.
Bonjour à tous et merci de votre invitation. C'est un sujet important.
Première question que l'on peut se poser, est-ce qu'il existe une définition précise et communément admise de ce qu'est la culture scientifique, technique et industrielle ?
Je ne sais pas s'il y a une définition, au fond ça m'importe peu. Je crois que la raison d'être de cette notion de culture scientifique, je le résume à ce nom-là, parce que pour moi le nom scientifique, ça évoque une chose qui est la connaissance. Or le mot culture, c'est un mot en français qui a deux sens. Spontanément, on a tendance à penser aux arts, à la littérature, au théâtre, comme vous le disiez. C'est spontané. Mais la réalité, c'est que le mot culture, c'est aussi ce qu'on a accumulé depuis des siècles ou des millénaires dans l'humanité. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la connaissance en général, les us et coutumes, c'est énormément de choses. Or, si on prend le problème de la connaissance, c'est quand on dit scientifique, pour moi, c'est à la fois les sciences pures et les sciences humaines. C'est un mot large. Et la connaissance au XXIe siècle, elle est considérable, parce qu'on a accumulé des tas de connaissances. Mais si on regarde comment on y accède, souvent dans l'enfance, par l'école, le lycée, l'université ou des écoles. Mais est-ce qu'on sait que pendant sa vie, elle est longue après les études, eh bien la connaissance, elle évolue de manière incroyable. Un seul exemple, le télescope Hubble. Lancé dans les années 90, du nom d'un astronome, il a découvert les galaxies hors de la Voie lactée. Or, grâce à Hubble, par exemple, on a compris des choses dans l'univers qu'on n'imaginait même pas. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'univers, pour prendre cet exemple, n'a rien à voir dans ce qu'on en sait avec ce qu'on a appris à l'école. Pareil en biologie ou en microbiologie. Et je pourrais citer 1000 exemples. Donc, il faut continuer à diffuser la connaissance et la diffuser, et c'est peut-être ça le sens de la culture scientifique, de manière simple. Puisque ce sont des notions souvent théoriques, complexes, comment la diffuser simplement ? Et c'est ça la fonction de la culture scientifique portée par la culture.
Une question que je me posais également, c'est est-ce qu'il existe une stratégie nationale de promotion et de développement de la culture scientifique, et technique et industrielle en France ? J'ai l'impression que c'est un sujet qui s'est imposé, notamment au ministère de la Culture, mais que ce n'est pas le ministère de la Culture qui a été moteur vraiment là-dessus.
Non, pas du tout, parce que l'histoire a précédé le ministère de la Culture. Et certes, il y a une définition, et ce qui est heureux, c'est que je crois que c'est en 2017 ou je ne sais plus, que le ministère de la Culture a enfin reconnu cette dimension-là. Mais si on prend le cas de Toulouse, le Muséum d'histoire naturelle ouvre au public en 1865, donc il y a 160 ans, et sa fonction, dès cette époque-là, était bien de faire accéder le grand public à des notions d'histoire naturelle. Donc, vous voyez, l'histoire, c'est le deuxième après Paris, donc cette notion, elle a démarré très tôt à Toulouse. Et puis, elle s'est ensuite développée parce que Toulouse a finalement une caractéristique que très peu de villes en France ont, peut-être à part Paris. Premièrement, Toulouse est une ville, une des plus anciennes villes universitaires, la deuxième après Paris, là également, comme le muséum, ville universitaire historique. Et ensuite, Toulouse, alors ça c'est beaucoup plus récent, depuis un siècle seulement, Toulouse est devenue une ville industrielle, ce qui est rare en France, et donc une ville de technologie. Alors, pourquoi on parle de science et de technologie ? Bah, tout simplement parce que la science, notamment avec ses développements du 18e et du 19e siècle, a permis le développement de très nombreuses technologies. Tout ce qu'on a en microélectronique, c'est des choses qui sont nées au 19e siècle quand même. Hein. Et la technologie qui nous entoure et qui nous fait vivre sans doute mieux, cette technologie a permis des progrès scientifiques incroyables. J'ai cité Hubble pour prendre exemple, c'est cette perfection technologique qui permet d'approfondir de nouvelles connaissances scientifiques. Donc ça marche ensemble, c'est la boule et l'œuf.
À vous écouter, je me demandais aussi si la culture scientifique, technique et industrielle était mise en valeur dans la plupart des grandes villes et métropoles françaises, ou est-ce qu'il y aura une spécificité toulousaine dans ce domaine ?
Alors, la spécificité toulousaine, c'est ce que je viens de dire, université, recherche, labo, industrie importante, notamment dans les domaines des technologies. Et troisièmement, il y a eu depuis longtemps, et ça j'en ai été témoin ici à Toulouse, d'un certain nombre d'associations, donc de gens qui sont très souvent des bénévoles, qui ont envie de transmettre, souvent des gens qui peuvent travailler dans le monde ou scientifique ou technologique, et qui ont envie de transmettre aux enfants, aux adultes. Et on a beaucoup d'associations à Toulouse qui sont performantes dans ce domaine et qui accompagnent les collectivités locales puisque nous les soutenons. Donc Toulouse a vraiment une place assez remarquable et, sans vouloir être prétentieux, on pourra revenir, il y a 5 établissements dédiés par thématique à Toulouse qui représentent aujourd'hui pratiquement 1,3 million de visiteurs. C'est plus que les musées. Les musées contribuent à la connaissance aussi, hein, ils font partie de ce domaine, comme la lecture publique ou les bibliothèques. Et les établissements de culture scientifique, 1,3 million de visiteurs. Et je ne compte pas l'établissement de la machine, qui lui-même amène 300 à 400 000 personnes et qui, quelque part, est à la frontière entre l'art et la technologie. Donc, on a pris une place extrêmement importante. Il n'y a que Paris qui peut rivaliser avec nous, avec un établissement important qui est la Cité des Sciences et un autre extrêmement important, le Palais des Couvertes, mais qui est aujourd'hui en danger.
Alors, comme je l'évoquais dans mon introduction, ce qu'on peut dire, c'est que si la CSTI est un axe fort de la politique culturelle métropolitaine, je raisonne Toulouse Métropole, c'est lié vraiment à la base à une histoire, avant tout.
C'est une histoire, bien sûr, qui est le muséum. C'est le fait que, dans les années 2000, Dominique Baudis prend la décision de créer la Cité de l'Espace. Alors, on a un établissement qui, à l'époque, est créé autour de l'industrie spatiale, mais à la Cité de l'Espace, on ne montre pas simplement des satellites, on montre les applications de l'espace. Comment l'espace intervient dans le domaine de la météo, dans le domaine des véhicules, dans le domaine de la logistique, le domaine de la défense. Il y a d'innombrables applications qui se sont beaucoup développées depuis la création de la Cité de l'Espace. Donc on voit bien qu'on part dans un autre domaine que celui de l'histoire naturelle. Évidemment, le muséum a été modernisé en 2008. Et il est extrêmement important parce qu'on est dans le domaine de la biodiversité et de l'environnement qui est devenu un autre sujet extrêmement clé dans le monde moderne.
Une des préoccupations principales des citoyens aujourd'hui.
Bien sûr. Hein. Donc le muséum naturel est là-dessus, la Cité de l'Espace. Et puis ensuite, on est arrivé à 2 autres établissements dédiés à l'aéronautique. L'Envol des Pionniers qui, lui, raconte l'histoire extrêmement méconnue de la naissance de l'aéronautique civile et de la construction aéronautique à Toulouse. C'est pour ça qu'elle existe aujourd'hui. C'est un établissement très, très intéressant de ce point de vue-là, qui montre cette logique de pionnier et d'aventure. Et puis, Aéroscopia, qui est beaucoup plus dédié à la construction moderne, même s'il y a des avions anciens, et qui est jumelé avec éventuellement des visites d'Airbus, bien entendu. Et puis, le Quai des Savoirs, qui est reconnu dans la France entière, parce que lui, il est sur les sujets scientifiques transversaux. Exemple, les foules en ce moment, une exposition extrêmement intéressante sur un sujet, entre guillemets, social, mais vu d'un point de vue scientifique. Et c'est l'exemple type des croisements qu'on peut faire de sujets de société.
Si on fait là encore un peu d'historique, à quand remonte la volonté de mettre en valeur cette histoire et ce patrimoine à Toulouse ? Donc c'est les années 2000, donc c'est vraiment très récent.
Oui, on va dire que c'est récent, c'est les années 2000. Parce que les années 2000, c'est la création de la Cité de l'Espace, c'est la décision aussi par Dominique Baudis de moderniser le muséum, qui était un établissement vieillissant. Et puis, c'est les années, je dirais, une accélération qui se fait dans les années 2010-2015. Enfin, vous savez, l'idée de faire l'Envol des Pionniers remonte à 2004. Bon, il a mis du temps à sortir parce qu'il y a eu des atermoiements, mais peu importe. Aujourd'hui, dans les années, à partir de 2014, il y a vraiment la volonté de faire le Quai des Savoirs, de l'ouvrir. Hein, il a ouvert en 2016. Là aussi, l'idée de développer quelque chose dans les bâtiments de l'ancienne université remonte aux années 2004-2005. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'on peut faire des choses vis-à-vis du grand public en bénéficiant du terreau toulousain qui est extraordinaire, avec de l'appui des industriels de toute nature, les industriels de l'espace à la Cité de l'espace, tous les industriels aéronautiques, parce qu'il n'y a pas que Airbus, il y a aussi beaucoup d'autres entreprises, vous le savez, comme Safran et bien d'autres, pour Aeroscopia. Et un chiffre, on y consacre 15 millions d'euros à la métropole. Donc c'est quand même un gros budget. C'est 10% du budget global de la culture. Donc aujourd'hui, c'est un effort financier très important, mais qui porte ses fruits parce qu'on attire beaucoup de gens, y compris hors de Toulouse.
Oui, alors vous avez soulevé un point qui me semble essentiel. Donc évidemment, derrière tout ça, il y a les financements de Toulouse Métropole, mais il y a aussi des partenariats avec les universités, les entreprises et les associations de CSTI sur notre territoire.
Tout à fait. Alors, je prends un exemple. Le Quai des Savoirs travaille étroitement avec l'université, principalement Paul Sabatier, parce que c'est la dimension scientifique, à la fois parce que nous y invitons des conférenciers, nous travaillons avec des labos, on a des comités scientifiques pour préparer les expos en faisant appel aux meilleurs chercheurs toulousains ou pas toulousains, mais beaucoup avec des Toulousains. J'ai cité l'exemple d'Aeroscopia, où il y a un partenariat fort avec les industriels de l'aéronautique. Le muséum, on est en lien avec là, beaucoup de labos aussi, alors labos plutôt de paléontologie, par exemple, parce qu'on est dans l'histoire de l'humanité.
Voilà. Et puis il y a des associations comme Science et Animation.
Alors des associations, il y a l'exemple, il y a Science et Animation, il y a Planète Science.
La mêlée numérique.
La mêlée numérique également, mais surtout Science et Animation et Planète Science sont importantes. Il y en a d'autres comme Atensène, vous voyez, des petites associations plus discrètes. Vous voyez, les mathématiques, c'est un exemple de discipline complexe qui fait peur aux gens. Et il faut être capable de rendre ça simple et accessible, de rendre ça amusant aussi. Je crois qu'il faut rentrer les sciences par le plaisir. Je voudrais ajouter un enjeu que je n'ai pas cité. Aujourd'hui, il y a un enjeu de la culture scientifique, c'est d'attirer les jeunes, et notamment les femmes, vers la science. Parce qu'il y a un déficit extrêmement important. Dans les études, les gens ne vont pas parce que ça leur fait peur. Les maths ont toujours eu une connotation, les sciences dures. Et notamment un énorme déficit de femmes. Alors, on le voit dans l'école d'ingénieurs, on n'arrive pas à dépasser des seuils de 30%. Ce n'est pas normal. Et il y a des barrières qui sont plus probablement psychologiques. Et ça commence tôt, parce que les orientations, ça se fait très vite. Et après, quand on est dans la vie adulte, c'est trop tard. Donc c'est un des enjeux.
Comment la direction de la CSTI est-elle organisée au niveau métropolitain ? Est-ce qu'il y a une direction générale de la CSTI au-dessus des établissements qui en font
bien
partie ?
Bien sûr. Alors si vous voulez, quand j'ai pris en charge mes fonctions à la culture, c'était en 2014, il y avait une personne dédiée à la culture scientifique, qui était une jeune femme qui venait du monde universitaire, mais qui avait beaucoup de difficultés. Alors d'abord parce qu'elle était toute seule et visiblement soutenue par pas grand monde. Alors on lui demandait de faire des choses, c'était incontestable, on lui demandait de préparer le cahier savoir, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de projet. C'est bien joli d'avoir un bâtiment rénové, mais qu'est-ce qu'on met dedans ? Pourquoi faire ? Comment ? Avec quel budget ? Avec quelle personne ? Donc j'ai pris la décision de renforcer et de créer une direction qui est aujourd'hui assumée par Élodie Pignol, la directrice en question, pour à la fois piloter l'ensemble de ces établissements, parce qu'au fond, chaque établissement peut vivre sa vie. Et par exemple, on voit bien que des établissements comme l'Envol des Pionniers et Aeroscopia, ils ont un lien organique. Il faut organiser des billetteries communes. On a créé des billetteries communes entre l'Envol des Pionniers et la machine, par exemple. Donc il y a un travail qui est plus d'organisation, qui est plus d'accès au public, qui a nécessité d'optimiser les moyens, parce qu'au départ, le Quai des Savoirs, on avait zéro moyen. Et les budgets n'étant pas extensibles, il a fallu se débrouiller. Et pour ça, il fallait un talent d'organisation et de gens qui connaissent la culture. Parce que la finalité, c'est bien le public.
Comment s'adresse-t-on au public et à tous les publics ?
À tous les publics.
Alors, les grands établissements de culture scientifique, technique et industrielle dans la métropole toulousaine, vous en avez déjà un peu parlé, mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. On va commencer par le plus ancien, donc le muséum. Qui dirige aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut y voir en permanence ? Qu'est-ce qui est organisé ponctuellement ?
Alors, le muséum d'histoire naturelle, le plus ancien, nous sommes en train de recruter son directeur ou sa directrice.
Oui, parce que Francis Duranton a pris sa
retraite. Oui, il a pris sa retraite, ce qui est normal d'ailleurs, et il a fait un long parcours. Aujourd'hui, nous sommes en pleine phase de recrutement. Et je pense que c'est un poste qui attire beaucoup de monde et j'espère que nous aurons une personne de qualité, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on y fait au muséum ? Évidemment, on a ce qu'on appelle une exposition permanente qui parle de l'histoire du vivant, finalement. Hein, mais pas seulement, parce que dans les muséums d'histoire naturelle, on peut parler aussi des minéraux. C'est le minéral, le végétal et l'animal. Donc, l'homme en faisant partie, bien entendu. Donc ça, c'est l'expo permanente qui date de la réouverture du muséum, qui pourra donner lieu d'ailleurs à ce qu'on la repense, parce qu'il faut en permanence adapter les choses. Et puis, évidemment, des expositions annuelles temporaires, qui sont sur des thématiques très variées, qui recoupent à la fois les collections du muséum et qui ont un intérêt pour le public. Donc on va en avoir une bientôt qui s'ouvre, qui s'appelle Domestiquez-vous.
Domestique-moi si tu peux.
Domestique-moi si tu peux.
Le 17 octobre.
Voilà, mois d'octobre, c'est tout proche, sur une thématique très, très intéressante et certes connue, mais comment l'homme a pu domestiquer différents animaux dans des périodes très anciennes. Voilà, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'humanité.
Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a depuis peu, depuis 2 ans, je crois maintenant, un espace biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle qui a été créé, donc, je crois, en 2023. Francis Duranton était venu d'ailleurs en parler dans cette émission. Ça montre aussi que la modernité oblige parfois les établissements à s'adapter aux attentes aussi du public et aux préoccupations du moment.
Si vous voulez, la biodiversité, j'ai tendance à dire que c'est une adaptation sémantique, parce que le muséum s'est toujours intéressé à la biodiversité, par définition et par construction. Mais aujourd'hui, le grand public, et ce que les scientifiques essaient de faire, c'est de démontrer en quoi la préservation de la diversité des espèces est importante pour leur survie, et aussi pour la survie de l'humanité.
De l'homme, oui.
Parce que le vrai sujet, c'est la survie de l'humanité.
L'autre établissement de création le plus récent, même s'il est survenu bien plus tardivement que le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est la Cité de l'Espace. Alors, il y a eu aussi un changement de directeur assez récent.
Oui, assez récent, bien sûr, mais ça se fait par l'évolution des structures. Cette structure, donc, date des années 2000, elle a un peu plus de 25 ans. Et là aussi, on voit que l'histoire spatiale, elle-même relativement récente, pour des jeunes générations, pour un enfant d'aujourd'hui, par exemple, vous lui parlez de la station Mir ou d'Apollo, il ne sait pas ce que c'est.
Non.
Et ça ne lui parle pas. À l'inverse, on a des sujets aujourd'hui, vous lui parlez de GPS, à 15 ans, ils ont, ou même des fois avant, ils ont un smartphone, et les jeunes ou les ados, mais ils ne savent pas comment ça marche non plus. Donc je pense que là aussi, on aura à faire évoluer ce qu'on appelle la médiation, c'est-à-dire la façon de parler de l'espace, des technologies, mais aussi des utilisations qui ont évolué considérablement. Là aussi, on recoupe le sujet de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, les satellites permettent l'observation de la Terre. Et puis il y a les problèmes aujourd'hui qui préoccupent tout le monde, les problèmes de défense, les problèmes aujourd'hui, le monde militaire dépend du spatial. Le spatial, on le voit bien, est à la croisée de l'ensemble des activités humaines. Aujourd'hui, on couperait tous les satellites, mais on serait perdu. Les gens ne savent plus servir d'une carte. Bon, voilà. Donc le spatial est devenu une problématique de société, ainsi qu'une problématique à la fois économique, industrielle et stratégique considérable.
Oui, alors qu'est-ce qu'on peut y voir à la Cité de l'Espace, hein, pour revenir un peu là-dessus? Oui, bah, c'est l'histoire
spatiale. À la Cité de l'Espace, on peut y voir, à mon sens, évidemment, toute l'histoire de ce qu'on appelle la conquête spatiale. On parle de Mars, évidemment, il y a la Lune au passage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conquête spatiale. Je pense que l'autre dimension aussi qu'on peut voir, c'est, si vous voulez, l'évolution de la météorologie. Dépend de deux choses, d'une part les observations satellitaires et toutes les mesures, et aussi les puissances informatiques qui ont évolué considérablement. Donc la météo aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a évidemment à la Cité de l'Espace, parmi d'autres, parce qu'il y a énormément d'applications qui passent par le spatial. Les télécommunications, tout simplement. Les télécommunications aujourd'hui mondiales, ça passe par le sol et l'espace.
Il y a des événements aussi ponctuels, évidemment.
Alors évidemment, comme je l'ai dit pour le muséum, comme tous les établissements, c'est vrai de tous nos musées, des expositions permanentes et des événements qui sont liés soit à l'actualité, soit à des rappels. Quand on a fêté l'anniversaire de l'arrivée de l'homme sur la Lune, c'était des événements. Quand Thomas Pesquet est parti dans l'espace, c'était aussi des événements. Il se passe toujours quelque chose. Ariane 6, etc.
Ah, il y a un autre établissement qui est très lié à la Cité de l'Espace au point d'avoir le même directeur, d'ailleurs, c'est l'Envol des Pionniers. C'est le plus récent de tous.
Oui, alors bon.
Là, c'est plutôt l'histoire de l'aéronautique civile.
L'Envol des Pionniers, c'est différent. Alors, c'est un établissement que nous avons choisi d'intégrer dans la délégation de service public de la Cité de l'Espace pour des raisons de proximité. Bon, donc c'est pour ça qu'il y a une direction commune, mais c'est un établissement différent qui a sa propre identité. On est à l'endroit où, en 1918, le 25 décembre, le jour de Noël, Pierre-Georges Latécoère décolle avec, il était pas aux commandes de l'avion, avec un pilote pour créer le premier vol civil de Toulouse à Barcelone. Bon, et c'est ça qui a démarré l'aventure des lignes Latécoère, qui ont été jusqu'en Afrique, évidemment, Maroc-Afrique, et puis plus tard l'aéropostale, qui a pris la suite des lignes de la TECOER, et ensuite Air France, au moment de la faillite de l'aéropostale, c'est Air France qui regroupe
qui s'est installé un certain
de compagnies en 1933. Donc c'est une histoire qui à la fois mérite d'être connue de beaucoup de Toulousains ou de nouveaux Toulousains. Alors les plus anciens connaissent peut-être, mais pas les nouveaux Toulousains. Et on est à l'endroit où ça s'est passé. C'est à l'endroit où on a recruté Mermoz, où Didier Dora a dit à Mermoz, direction l'atelier, parce qu'on ne cherche pas des pilotes acrobates, on cherche des pilotes fiables pour transporter le courrier. Il y a une histoire, cette piste est en partie classée, donc on l'a conservée, et l'envol des pionniers, on a reconstitué le bureau de Didier Dora, par exemple. Là aussi, on fait des expositions temporaires, c'est le cas actuellement d'une exposition sur Air France. On
a fait Air France, une histoire d'élégance magnifique.
Voilà, oui. Qui est une magnifique expo. On a fait une expo sur Saint-Exupéry, on a fait une expo sur la TECOER. Ce n'est pas un musée d'ailleurs, c'est un lieu où on veut faire ressentir cette aventure qui était une aventure humaine, parce que beaucoup de gens ont pris d'énormes risques, les pilotes, ils n'étaient pas sûrs de survivre. Il y a eu une centaine de morts au minimum, hein. C'était risqué, extrêmement risqué, donc ces gens ont pris des risques pour développer l'aviation.
Moi, je conseille d'aller voir cette belle exposition Air France, une histoire d'élégance. Alors, on va parler du Quai des Savoirs maintenant, qui va fêter bientôt ses 10 ans, je crois.
On s'approche des 10 ans l'année prochaine.
L'ouverture, dirigée par Laurent Chicoineau, que je reçois assez souvent aussi dans cette émission, à l'occasion des expositions annuelles. En ce moment, c'est l'exposition Comme des moutons, point d'interrogation, sur le phénomène des foules. Vous en parliez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la science, ou les savoirs, même au sens très large.
C'est
science humaine, science dure.
Quand on a adopté ce nom de Quai des Savoirs, c'était justement pour montrer qu'on était sur les connaissances de manière large. Bon, alors chaque année, on a depuis 2016 choisi des thématiques. Il y a eu des thèmes sur des sujets biologiques, des thèmes robotiques. L'an dernier, l'intelligence artificielle, que nous avons décidé avant qu'elle soit à la mode. Parce que l'intelligence artificielle, elle remonte à bien loin. C'est pas une invention d'aujourd'hui, c'est une invention bien plus ancienne. Mais maintenant, elle devient accessible, donc c'est pour ça qu'il y a ce phénomène médiatique. Mais Laurent Chicoineau fait un travail d'animation tout à fait remarquable avec ses équipes, hein, qui sont très impliquées et très mobilisées. Et chaque année, on essaie de choisir un thème qui croise bien sûr la science ou la technologie, ou les deux, et la société. Parce que c'est ça l'intérêt. Au Quai des Savoirs, vous n'aurez pas des réponses, vous aurez souvent des questions. L'intelligence artificielle, pour prendre son exemple, pour montrer l'histoire de ce sujet, mais aussi les questions qu'elle pose. Des questions juridiques, des questions environnementales.
Des questions d'éthique.
Des questions d'éthique, justement, qui croisent le juridique. Et l'idée, c'est de mettre à disposition du public les données pour qu'il se pose des questions et pour qu'il approfondisse éventuellement ses connaissances et surtout pour le rendre accessible. Alors, vous êtes journaliste, vous savez que les médias en parlent, mais des fois, de manière, on peut être rapide, un sujet
approximatif.
Ou approximatif. Les journalistes ne sont pas forcément des scientifiques, mais la culture scientifique s'adresse au grand public, mais y compris aux journalistes, parce qu'il s'agit d'animer le sujet, de le rendre attractif, et donc vous y contribuez.
Oui, et ça commence dès le plus jeune âge, puisque ça s'adresse vraiment à tous les publics, et notamment aux tout petits, puisqu'il y a une aile qui s'appelle le Quai des Petits.
Nous avons, dès le départ, imaginé le Quai des Petits, qui est une façon de découvrir, on va dire, la logique par le jeu. Et force est de constater que le Quai des Petits est rempli tout le temps. Il y a des listes d'attente, c'est vraiment un succès formidable, ce qui montre bien que c'est bien dès le plus jeune âge qu'on peut sensibiliser, et après on peut toucher les adolescents, on touche les parents, on touche les professeurs, on touche j'ai évoqué les journalistes, le grand public, tout, et tous ceux qui peuvent faire relais d'opinion. Mais je pense aussi qu'à tout moment de sa vie, on apprend des choses.
Ça, j'en suis certain, et c'est bien aussi de commencer tôt, donc le Quai des Petits, ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, allez y faire un tour. Aéroscopia, pour terminer, donc dernier établissement, c'est le seul qui n'est pas à Toulouse, il est à Blagnac.
Alors c'est le seul
ça
qui s'explique. A été... Alors ça s'explique évidemment, le lien est assez facile, il y a eu d'immenses débats pour savoir, ça fait longtemps qu'on voulait faire un lieu à Toulouse dédié à l'aéronautique et aux avions.
C'est un musée, on peut dire,
Alors il s'appelle musée, mais on veut l'animer de l'aéronautique et de la construction aéronautique. On l'a finalement fait à Blagnac par la volonté de la ville de Blagnac à l'époque et évidemment par la proximité de l'aéroport, parce que quand il faut faire venir un Concorde pour prendre un avion mythique classé monument historique, comme vous le savez, ou un Transal qui est parmi les plus récents, on le fait atterrir à Blagnac et puis après il faut l'amener, donc c'est pour ça qu'on l'amène par les pistes et par les usines d'Airbus, donc il est bien placé à Blagnac. Mais évidemment, ça rend un peu plus éloigné. Il est devenu métropolitain un peu plus récemment, mais c'est un établissement important qui a une très grande fréquentation, malgré son éloignement. Il est proche du mythe, qui fait qu'on peut avoir des gens qui maintenant sont au mythe et peuvent venir voir. Il y a un travail d'animation remarquable qui a été fait parce qu'il est à plus de 200 000 personnes. C'est très spectaculaire, évidemment. Quand vous voyez la 380, les deux Concordes, la Caravelle, enfin bon, ou des tout petits avions historiques, c'est un musée extrêmement intéressant, très prisé, et qui est un complément indispensable de l'envol des pionniers.
Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a des actions qui sont menées dans les communes métropolitaines par certains de ces établissements. Donc il y a un aspect réseau. Les communes ne sont pas oubliées, bien sûr, et on n'est pas obligé forcément de se déplacer à Toulouse pour avoir accès à la culture scientifique et technique.
Alors, il est évident que quand on a ces établissements ont été sous la tutelle de la métropole, très vite la question s'est posée de dire
comment on peut diffuser.
Alors, on a attiré déjà des gens de la métropole, que c'était l'espace, au muséum, il y a une attraction naturelle, la métropole. Mais néanmoins, on a pensé qu'on pouvait, et ça c'est une création de la direction de la culture scientifique, d'Élodie Pignol et son équipe, de créer des actions transportables en plus petits modèles. Alors je prends un exemple, on a fait des actions récentes à Aussonne, à Saint-Jean, à Saint-Jory, à Mondonville, à Pibrac, à Quinte-France-Grive, à Tournefeuille, et j'en oublie sûrement beaucoup. Et j'ajoute aussi, quand on raisonne territoire, il y a aussi les quartiers de Toulouse. Parce qu'il ne faut pas oublier que le territoire, c'est des communes et des quartiers. Alors que le muséum, la cité, ils sont un endroit dans Toulouse. Ces actions ont consisté, si je prends des exemples, on a des manipulations issues du Quai des Petits qu'on peut transporter. Récemment, c'est ce qu'on a fait au quartier Rennerie, par exemple. À Tournefeuille, c'est deux expos issues du Quai des Savoirs qui sont en plus petit format, qui ont été exposées à la cour de la médiathèque. Donc, on s'adapte à des lieux dans les communes. Et c'est des sortes de kits un peu en modèle réduit, si on peut dire, mais néanmoins qui permettent aux communes d'inviter les écoles, d'inviter le public. Et ça marche bien depuis maintenant plusieurs années et on va continuer, bien entendu.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Francis Grasse, d'en avoir été l'invité. Merci de nous avoir présenté ce fascinant et passionnant domaine de la CSTI, la culture scientifique technique industrielle, que l'on peut explorer dans la métropole toulousaine en allant visiter le Muséum d'histoire naturelle, le Quai des Savoirs, la Cité de l'Espace, l'Envol des Pionniers et Aéroscopia à Blagnac. Tous sont des sites internet très bien faits pour vous renseigner sur leur programmation, leurs horaires et jours d'ouverture et les tarifs qu'ils pratiquent, bien sûr. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.